Bonjour à tous, c'est Charlotte et on se retrouve aujourd'hui pour la quatrième édition du Saint-Omide. Et aujourd'hui, on est réunis en table ronde pour chacun en parler d'une œuvre qu'on a choisie, donc une œuvre cinématographique, un film, une série ou bien encore une musique.
Alors moi, aujourd'hui, je vais vous présenter une série espagnole. C'est El Intendano de las Cumbres, donc c'est une série qui est composée de 3 saisons entre 8 et 6 épisodes. Elle a été mise en scène par Laura Belloso et Asier Andugo. Donc c'est une série signée Amazon Prime, donc le nom ne doit pas être inconnu pour certains d'entre vous, car c'est le reboot d'une série El Internado diffusée entre 2007 et 2010. Dans cette série, on peut suivre les aventures d'Amaya, Manuel, Inès et Paul au sein d'un internat pour jeunes difficiles qui se situe au milieu des montagnes perdues. Et c'est situé également au-dessus d'un monastère. Donc on va suivre leur enquête, plongée dans l'horreur, avec une histoire qui va tourner autour d'un groupuscule composé essentiellement de femmes. Donc le petit plus de la série, c'est que tout d'abord, le casting est un casting relativement jeune et peu connu du grand écran et du petit écran. Et aussi, l'autre gros plus que je trouve, c'est que les lieux du tournage sont situés ici, au Pays Basque. On va retrouver également... ils comprennent San Sébastien, Bilbao, Oyarzun, et le plus proche, c'est une partie de la série a été tournée à Anglette. Donc pour les amateurs d'horreur, de thriller ou tout simplement les fans de la première heure, cette série vous attend maintenant sur Amazon Prime.
Bah, tu veux y aller?
Attends.
Il y a les questions.
Tu fais quoi? Les questions? Si tu peux répéter le titre peut-être de la série que tu as choisi.
C'est El Internado de las Cumbres, donc tout simplement l'internat de las Cumbres.
Des ombres?
Non, c'est un endroit qui se situe en Espagne. Okay. Enfin, même si le lieu de tournage ne se situe pas là où se situe l'internat, c'est une région.
Et pourquoi tu as choisi cette série à présenter aux auditeurs?
Ça fait à chaque vacances d'avril, ou l'année dernière c'est sorti à février, pardon, je regarde cette série tout simplement. C'était pour la faire découvrir parce que je l'avais plutôt appréciée.
D'autres questions?
Est-ce que tu as un personnage préféré ou pas dans la série?
J'aime bien le personnage d'Amaya parce qu'elle est toujours en train d'enquêter, de chercher toujours plus loin. Et également, elle va poser des questions à plusieurs personnages. Ça fait que ça met en relation plusieurs parties qui étaient assez déliées dans l'histoire.
Et enfin, qu'est-ce qui t'a plutôt séduit dans cette série? Plutôt le côté de l'image ou le côté de l'histoire? Peut-être les deux?
Plus l'histoire en soi, parce que c'est varié, parce que ça parle d'un groupuscule, également de jeunes difficiles, mais également d'un groupe pharmaceutique qui va rentrer dans l'histoire.
Sachi, tu veux faire
ouais, te laisser présenter ? On va rester dans le cinéma, puisque moi je vais présenter mon film préféré. Donc c'est Parasite de Bong Joon-ho, qui est un réalisateur sud-coréen, sorti en 2019. Donc sur le genre, on est sur une comédie noire qui est vraiment riche pour le coup, et en fait le film va suivre tous les mécanismes et relations entre ces deux familles. Donc c'est un film qui a été reconnu puisqu'il a quand même reçu la Palme d'Or à Cannes et 4 Oscars, donc d'ailleurs c'est le premier film non anglophone à gagner l'Oscar du meilleur film, et il est considéré comme meilleur film de 2019. Donc ce qui m'a plu personnellement, c'est que le résumé que j'ai fait est un peu light parce que c'est un film qui est très imprévisible en fait. On se lance dedans et on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, et l'histoire évolue d'une façon très, très particulière. Donc il y a toujours un détail à analyser dans le sens où la réalisation elle est vraiment très astucieuse. On peut revoir le film plusieurs fois et à chaque fois remarquer quelque chose de nouveau. Et puis pourquoi est-ce que je le présente aujourd'hui? Outre le fait que je n'avais pas d'idée, que c'était mon film préféré, c'est que je pense que c'est un film très actuel, un film très important puisque c'est une violente critique sociale qui parle surtout de thèmes comme le rapport de classe ou le classisme. Globalement, on peut dire que c'est un film sur la lutte des classes, et ça illustre vraiment le concept de mépris social qui est, je crois, malheureusement très actuel. Et donc c'est un film qui rentre vraiment dans quelque chose de très contemporain, en fait.
Qui l'a vu, ce film, autour de la table? Ludivine? Que Ludivine?
Je ne connaissais pas.
Il est sur ma liste à regarder. Il faut que je me dégage du temps pour le regarder.
C'est un film qui a été primé à Cannes, je crois que tu l'as dit, ouais, qui a beaucoup fait parler de lui quand il est sorti. Ludivine, qu'est-ce que t'en as pensé, toi qui l'as vu, de ce film?
Moi, j'ai bien aimé parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de détails dedans. Donc en même temps, on arrive à, comme a dit Pachi, à le redécouvrir plusieurs fois. Mais aussi, on peut se mettre un peu dans un rôle analytique, on va toujours regarder un petit peu partout et pas simplement voir l'histoire passer.
Tu sais s'il est disponible sur des plateformes ou pas pour pouvoir le voir ?
Il semble qu'il est sur Amazon Prime.
Ok.
Et je crois pas qu'il soit sur Netflix.
Non, je crois pas non plus, je pense que sinon on aurait vu passer. D'accord, merci. Et celle que tu veux lire ?
Oui, donc moi, je vais vous présenter un livre qui s'appelle Da Vinci Code de Dan Brown. Donc, il faut savoir que l'auteur a grandi entouré de philosophies paradoxales entre science et religion et qu'il a longtemps enseigné la littérature anglaise avant de se consacrer à l'écriture. Donc, ce romancier américain de 58 ans a écrit plusieurs best-sellers et développe un véritable intérêt pour le décryptage des codes secrets et le fonctionnement des agences gouvernementales. Ce qui l'amène donc à écrire de multiples thrillers ésotériques, dont Da Vinci Code, où la science des symboles en est le maître mot. Donc dans Da Vinci Code, on peut y découvrir le célèbre héros Robert Langdon. Donc ce professeur de Harvard en iconographie et art religieux est convoqué urgemment pour tenter de résoudre le message codé sur le corps du conservateur en chef du Louvre, Jacques Saunière, qui a été assassiné au milieu de la grande galerie. Donc, épaulé par une brillante cryptographe membre de la police, Robert Langdon déchiffrera le code et mettra à jour l'un des plus grands mystères de notre temps et deviendra également un homme traqué. Mais je ne vous en dis pas plus et vous invite à la lecture de ce best-seller iconique où religion et symbole riment avec mystère. Et surtout, bonne nuit blanche.
Qui l'a lu ?
Non.
Personne l'a lu ?
Ouais.
Mais il est paru en quelle année ?
Si je me trompe pas, il est apparu en 2006 et je crois qu'il a été traduit dans plusieurs langues et il y a d'ailleurs eu un film, je crois qu'il a été adapté en film également.
Il me semble, ouais. Je crois l'avoir vu.
Parce que par exemple, il y a une série par rapport à un livre du même auteur, c'est The Lost Symbol qui est sorti il y a pas longtemps si je ne me trompe pas. Et justement, ça fait partie en fait de la série de Da Vinci Code où on retrouve du coup le même personnage.
C'est pas un livre, on va dire, tout public, c'est un peu compliqué quand même. C'est un peu...
Oui, je conseille pas forcément de le lire très tôt. Après, ça dépend comment.
C'est pas très dur à lire.
Ouais, après, franchement, les actions s'enchaînent plutôt bien. On apprend pas mal de choses dedans parce que tous les faits historiques. Où les symboles qui sont décrits dedans, c'est basé sur des vraies recherches. Et donc du coup, tout ce qu'il dit, la plupart des choses et certaines informations, sont basées sur des recherches.
Le Da Vinci Code, ça a été écrit en 2003. Et moi, je m'en souviens très bien. J'étais étudiant à l'époque, à la fac, quand c'est sorti. Et j'étudiais un peu toute cette période-là. Et c'est avant tout une fiction, hein. C'est-à-dire que vraiment c'est un récit plutôt fictionné. Et alors il y a des choses qui sont vraies dans l'étude des symboles, il y a des choses qui sont pas vraies, qui servent en fait la fiction. Donc c'est pour ça que c'est un peu difficile de voir où est-ce qu'il tord un peu la réalité, ou est-ce que bon, c'est avant tout un policier, c'est avant tout un thriller. C'est quand tu commences à le lire, c'est un nom en anglais, ça s'appelle un turn pages. C'est une technique d'écriture. Vraiment, il faut que tu tournes la page qui suit pour connaître la suite. Donc c'est un récit qui est très prenant. Mais sur le fond historique, c'est assez light, hein, quand même. On va pas dévoiler, mais c'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui quand il a été écrit. Qui a fait faussement scandale aussi. Puisqu'on y parle beaucoup de l'Église, du Vatican, des secrets qui entrent sur le Vatican. Et donc, voilà, il brode beaucoup autour. C'est un bon policier. C'est un policier qui se lit de façon assez agréable.
Après, je crois que même dans ses autres livres, je crois qu'il y a par exemple Ange et Démon, ou ouais. Voilà, il y a pas mal de rapports à l'Église.
Oui. Mais c'est une veine qu'on retrouve beaucoup, hein, dans le récit d'aventure, de policier. Il y a un côté où le Vatican, comme soi-disant, ce qui est faux, cacherait beaucoup de secrets, notamment par exemple des évangiles qui sont apocryphes, des choses comme ça. Ça crée vraiment un faux mystère qui permet aux auteurs de beaucoup monter en épingle des mystères qui n'en sont pas, quoi. Et donc Dan Brown, il est vraiment dans cette veine là et il y a les films, hein. Vous avez peut-être vu les films, par contre?
Moi j'ai vu la série The Lost Symbol après.
Voilà, qui surfe vraiment, on voit que ça surfe vraiment un peu sur cette vague là. Ça surfe aussi un peu sur le complotisme, hein, puisque il y a des petites théories qui sont reprises par Dan Brown pour servir encore une fois son récit, qui font que c'est des récits d'aventure et un peu policiers qui sont sympathiques, quoi. On peut pas dire que c'est historique, hein. Voilà, je suis désolé. D'où cette longue parenthèse dans laquelle je glisse, parce que tu m'as posé la question. Non, après, il y a des ouvrages, si ça t'intéresse, si ça intéresse les auditeurs, il y a des ouvrages, je peux conseiller Pastoureau, qui a écrit vraiment des ouvrages sur la couleur, sur les symboles, ce que ça représente au fil du temps. Il faut plutôt aller voir cet auteur-là et tu verras qu'effectivement, on est quand même assez loin de ce qu'écrit Dan Brown. Tu peux aussi aller voir t'as des bouquins d'histoire de l'art, où on revient un peu sur ses côtés symboliques. Il y a des choses qui sont pas mal, et il y a des choses qui sont assez terrabustées, quoi.
Oui, après, des fois, selon le déroulement des trucs, on sent quand même que c'est un peu tiré par les cheveux, mais...
Voilà. Ok, donc, Terrain Cicotte, qui est un roman qu'on peut trouver assez facilement, qui a été un carton d'édition à son époque, je le répète, et qui fait partie de ces romans très divertissants et très faciles à lire. Il manque Charlotte ?
Oui. Donc, moi, j'ai choisi Le Château Ambulant, qui est un petit peu comme Patty, en fait, c'est mon film préféré. Alors, pas pour les mêmes raisons. Le Château Ambulant, c'est un film d'animation japonais qui est sorti en salle en France le 12 janvier 2005. Et c'est un film d'Hayao Miyazaki qui rentre dans la catégorie, du coup, des fameux films Ghibli. Donc, on peut aussi citer notamment Le Voyage de Chihiro, qui est un des plus récents. Donc, c'est un film fantastique, tout public. Et c'est aussi pour cette raison-là, du coup, qu'il est mon préféré, puisque c'est un film, on va dire, assez tranquille. Il n'y a pas trop de bouleversements, de renversements. S'il y en a, c'est plutôt dans le domaine fantastique. Du coup, c'est pas quelque chose non plus, on va dire, de super grave qui va créer toute une tension. Au contraire, c'est un film très, je pourrais dire, apaisant, en fait, à regarder. Les musiques sont agréables, les dessins aussi sont même très beaux, très jolis. Aussi quelque chose d'important que j'aimerais souligner, c'est les voix des personnages. Moi je les regarde toujours en version originale, donc en japonais, avec les sous-titres en français, et les voix des personnages sont en fait leur correspondent parfaitement et transmettent un message aussi par rapport à leur caractère, leur façon d'être. En fait, ces voix leur donnent réellement vie. Ce ne sont plus tout simplement des personnages, ce sont vraiment des personnes, en fait. Après, c'est un film que je regarde depuis des années assez souvent parce que je m'en lasse pas, tout simplement. Pareil, on peut...
Quand t'es malade ?
Mais quand je suis malade, quand j'ai du temps libre, parce que j'ai envie, c'est un petit peu selon mon bon vouloir, en fait. Enfin, globalement, je dirais pas que j'ai énormément de choses à dire parce que c'est un film qu'il faut voir pour comprendre ce sentiment, ce qu'il partage. Parce que l'histoire est peut-être un peu tirée par les cheveux, il y a quelques événements qui peuvent paraître inutiles, voire complètement bizarres ou décalés. Mais je trouve que ça fait aussi le charme de ce film, de laisser cours à l'imagination de chacun qui le voit. Et pareil, à chaque fois que je le vois, on découvre de nouveaux trucs, que ce soit dans les dessins, dans peut-être le dialogue, ou dans l'histoire, des nouvelles choses qu'on découvre au fur et à mesure. Et donc, ouais, l'avantage, le fait que ce soit tout public, je pense qu'on peut le voir en grandissant et voir à quel point ça peut peut-être nous impacter ou tout simplement voir notre point de vue changer.
Qui l'a vu, ce film ? Plus que Parasite. Hein. Tu l'as pas vu, Estelle ?
Non. Trop bien.
C'est, Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé, Ludivine et Patchy ?
Bah, c'est un film de notre enfance, enfin, je sais pas pour ça Ludivine, mais perso ça m'évoque quelque chose de très nostalgique quand même, les films Ghibli en général.
Moi je regarde encore, enfin surtout Château Ambulant, moi je regarde quand j'ai un coup de mou et ça va mieux.
Il a comme une sorte de pouvoir, je trouve, ce film, de que t'ailles bien, mal, c'est malgré tout t'es apaisant et après tu passes une bonne journée ou une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle tu le regardes, évidemment. Mais je pense que c'est pour ça aussi que je l'apprécie énormément.
Alors,
Hayao
Miyazaki, il est très connu, hein, je pense que vous en avez vu d'autres de lui.
Oui.
Est-ce que c'est votre Miyazaki préféré pour les autres ? Est-ce que vous en avez vu d'autres ? Est-ce que ce serait Toi, tu l'as dit, hein, c'est celui-là ton préféré. Est-ce que ce serait votre préféré à vous aussi?
Moi, je pense que oui. Parce que de mémoire, je crois que c'est le premier que j'avais vu. Et bah, c'est celui dont je me rappelle le mieux, puisque les autres m'ont pas spécialement marqué. Donc, ouais, je dirais que c'est lui.
D'accord.
Pareil, les autres, je les trouve comme Totoro plus enfantin. L'histoire est légèrement moins travaillée et l'image aussi.
Donc, après la présentation de ce film, nous avons donc de nouveaux intervenants. Donc, on a Tania.
Bonjour.
Judith.
Salut.
Julia.
Coucou.
Et Émilie qui interviendra pour poser des questions si elle le souhaite.
Salut.
Wow, salut, plein de confiance. Donc, Tania, je te laisse présenter ce que tu as choisi.
Du coup, moi. Non, attends.
Non, continue.
Ok. Donc, je voulais déjà présenter un film qui est sorti, du coup, il n'y a pas longtemps, en novembre 2022, que j'ai vu, du coup, récemment. Et qu'en fait, j'ai trop aimé parce que je trouve très intéressant. Donc, je vais vous donner un peu un. Comment, ça, comment on dit? Un avant-goût?
Ouais,
un avant-goût. Voilà, c'est ça.
Synopsis.
Une ellipse.
Du coup, en fait, le film, il parle d'une fille qui s'appelle Maren, qui vit avec son père et qui, en fait, cache un grand secret de tout le monde. Et en fait, il déménage souvent, très souvent, à cause de son secret. Et en fait, ce secret, c'est qu'elle est cannibale. Et en fait. Et du coup, à un moment donné.
Ça fait rire, hein, comme.
Surtout que c'est horrible en plus.
Et du coup, ils arrivent dans une. Enfin, c'est ça, je vous raconte un peu le début pour pas trop vous spoiler. Mais du coup, ils arrivent dans une nouvelle ville, après peut-être un incident, on sait pas. Et après être arrivés dans cette ville. Ils essayent un peu de vivre une vie un peu normale, mais en fait, Maren, elle refait ce qu'il faut pas faire. Elle va chez une copine et du coup, il se passe un petit accident. Et du coup, son père, il décide de partir et de la laisser toute seule pour vivre sa vie, qu'elle découvre un peu comment elle veut la mener, etc. Du coup, tout au long de l'histoire, elle va un peu découvrir qu'il existe aussi d'autres cannibales, pas que elle, et qu'en fait, ils peuvent se sentir entre eux. Et du coup, elle rencontre un jeune garçon qui s'appelle Lee, et ils vont vivre une grande histoire d'amour. Du coup, voilà.
Qu'est-ce qui t'a plu dans ce film ?
Ce qui m'a plu, c'est surtout les visuels, j'aimais beaucoup.
La photo, ok.
Voilà. Et aussi, il y a vraiment, genre, il y a des moments dans l'histoire, dans le film, où tu t'y attends archi pas, et en fait, ça fait grave peur. Voilà.
D'accord, donc il y a un côté où ça fait peur.
Il y a un côté où tu t'attends vraiment pas à ce que ce soit à ce moment-là que t'aies peur, quoi.
D'accord. Est-ce que tu peux me rappeler le titre du film, s'il te plaît?
Le titre du film, il s'appelle Bones and All.
Ok. Qui l'a vu ici?
Moi, non, je voulais trop le voir. C'est un des films que j'ai mis dans ma liste de films.
Ah ouais, ouais. Il est vraiment bien. Ouais.
Franchement, vu comme ça,
il est vraiment film. Très très bien. Ouais. Et
attends, il n'y a pas quelqu'un de ultra connu dedans?
Le garçon dont elle tombe. Amoureuse, il s'appelle du coup l'acteur c'est Timothée Chalamet et l'actrice de ma reine en fait c'est je sais plus comment elle s'appelle, attendez je vais regarder Taylor Russell.
Ah,
voilà, ah j'adore.
Qui était dans un autre film Waves je crois.
En fait on a que ça sur Instagram maintenant dans les trends et tout,
ah
sur
ouais
les vidéos t'as que des
il est vraiment trop bien le film.
Je savais pas que c'était sur du cannibalisme.
Ouais.
Je pensais que c'était juste une histoire de teen et romance.
Non. Ah.
C'est pour ça
un peu
fait,
mais c'est un peu quand même très très dark.
Entre deux bisous il mange un mec.
Ouais, ouais.
C'est une bonne conclusion je pense.
Un
ce film. Est-ce que... Donc on passe à... C'est à... Félix.
Ok, bah écoutez. Moi j'ai présenté aussi un film aussi, mais alors on parle pas du tout sur la même thématique de cannibalisme, romantisme, pas du tout.
C'est pas grave, on t'écoute.
On est plutôt sur une histoire qui s'est vraiment passée, que j'ai vu pendant les vacances, et en fait je savais pas du tout, j'avais pas du tout cette idée de présenter ce film, mais il m'a beaucoup touchée, il retourne pas mal l'estomac, faut avoir vraiment du cran pour le regarder. C'est donc le contexte, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, donc tout le monde sait ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, le génocide juif. Et donc c'est un film qui a été réalisé en 2008 par le réalisateur Marc Herrmann, et le titre c'est Le garçon au pyjama rayé. Je sais pas si vous en avez entendu parler.
Oui,
franchement, je m'attendais pas du tout à une histoire comme ça, donc bon, le contexte on le connaît, on sait ce qui s'est passé, mais en fait là on va voir une histoire à travers deux enfants de 9 ans, donc Bruno et Shmuel, où en fait on va avoir un aspect de naïveté, où les enfants sont innocents, ils ne savent pas ce qui se passe, surtout Bruno. Son père, il est donc soldat allemand, et il va être appelé à gérer l'organisation du camp de concentration d'Auschwitz. Et donc ils vont devoir déménager pour se rapprocher de ce camp. Bruno va devoir quitter ses amis, il ne comprend pas pourquoi ils doivent partir, mais bref, il suit sa famille. Et quand il va donc voir ce camp, il ne sait pas du tout ce que c'est, ses parents lui disent que c'est simplement une ferme, où il y a des gens qui y travaillent, et c'est là qu'il va rencontrer donc ce petit garçon. Et il va vite comprendre que quelque chose n'est pas normal, que enfin, c'est pas une ferme, et il voit bien que les gens ne sont pas heureux d'y travailler, ou du moins, enfin, c'est pas du tout un contexte de ferme, quoi. Donc il va décider d'aider ce garçon qui semble triste d'être dans ce camp. Et je vais juste vous donner un indice, il va entrer dans le camp. Voilà. Et oui, le film, il est disponible sur des plateformes. Il y a MyCanal et Amazon Prime Video pour ceux et celles qui veulent le voir.
Bah du coup, moi je l'ai déjà vu. Ouais, et vraiment, enfin, il est très très fort dans le sens où genre assez violent.
Ouais.
Tu t'attends pas à ce qu'il soit aussi violent, enfin, avec des enfants, voilà.
Est-ce qu'il est vraiment violent? Est-ce que je pense qu'il est
en fait, il n'est pas violent, mais il est plutôt dur à regarder dans le sens où c'est quelque chose qui s'est vraiment passé. Et là, on nous apprend ça en histoire, en cours d'histoire. On nous apprend les faits, mais on n'a pas d'exemple comme celui-là avec des enfants qui ne savent pas ce qui se passe. Et pourtant, ça les concernait. Ça concernait leur famille et des gens qu'ils connaissaient peut-être. Donc vraiment, là, on a l'aspect d'une histoire de deux enfants qui ne savent pas ce qui leur arrive. Et ils se rencontrent et ils viennent de deux milieux totalement différents. Et il se lie quand même d'amitié malgré leur histoire différente.
Qui l'a vu, à part Tania?
Moi, je l'ai vu, du coup, pendant les vacances.
Moi, j'en ai entendu parler, mais je l'ai pas vu.
Vous l'avez vu chez vous, Tania et Judith?
Oui.
C'est un film qu'on, je sais, les collégiens aiment bien. Moi, je l'ai pas vu, mais je sais que c'est tiré d'un livre aussi.
Oui, c'est tiré d'un livre.
Et je sais que c'est pour conseiller aux collégiens. Après, moi, je... pas une œuvre que je connais sur la Shoah, mais je sais qu'il a beaucoup marqué votre génération.
Ouais. Mais moi je connaissais pas jusqu'à ce page-là, pendant les vacances.
Et donc ça t'a plu?
Bah, ça m'a plu, c'est-à-dire qu'on saute pas au plafond non plus de joie en découvrant le film, mais oui, il est touchant, il est très touchant.
Ouais, ça t'a touché.
Ouais.
Okay. Cool, bah, c'est une bonne recommandation. Hein. Donc le garçon au pyjama rayé.
Voilà.
On va passer à Judith maintenant.
Sur une note peut-être un peu plus joyeuse, moi je voulais vous parler d'une exposition qui prend place actuellement à Paris.
On vient de parler de pyjama, donc on est dans le thème.
Bah ouais, mais ne me coupez pas du coup. cette exposition, excusez-moi. Désolée, monsieur Bart. Elle porte sur une collaboration entre deux grands artistes, c'est Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol. Jamais exposé dans son ensemble, le travail de collaboration de ces deux artistes, donc Andy Warhol, le pape du pop, et le jeune Jean-Michel Basquiat, se révèle à la Fondation Louis Vuitton à Paris. C'est un véritable choc visuel où les logos de l'un répondent aux masques africains de l'autre. Excusez-moi, il y a ma mère qui m'a appelée, si je vous couperai ça au montage. je vais procéder à une petite bio juste pour vous remettre dans le contexte des deux personnages. Donc Jean-Michel Basquiat, il est né le 22 décembre 1960 à Brooklyn, il est mort le 12 août 1988 à Noho. C'est un artiste peintre américain, il devient très tôt un peintre d'avant-garde populaire et pionnier de la mouvance underground. Pour vous situer, c'est un peu le père du graffiti. Et Andrew Warhol, dit Andy Warhol, est Pardon.
Non, pardon, continue, continue. Mais
pas d'accord. Pourquoi vous faites ça?
Non, plus rien, plus rien.
C'est officiellement...
C'est un tic de langage.
Ouais, c'est ça, non, écoutez,
vas-y.
Un tic de jugement. Vous couperez ça en montage. Ouais, également, c'est un artiste américain né le 6 août 1928 à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Il est mort le 22 février 1987 à New York. Il est l'un des principaux représentants du pop art. Pour certaines œuvres de ces deux artistes, pour par exemple Jean-Michel Basquiat, vous avez Courir avec la mort, Warrior ou Hollywood's African. Et puis pour Andy Warhol, vous avez tout ce qui est les Campbell Soup, et puis ouais, aussi toutes les représentations de Marilyn Monroe que vous devez connaître, qui sont souvent reprises pour des caricatures. Selon Basquiat, les deux artistes avaient travaillé ensemble sur 1 million de toiles. Si la réalité est plus proche de 160 tableaux, le commentaire dit bien la frénésie créative qui s'est emparée de ces deux artistes lors de leur collaboration artistique de 2 ans, entre l'automne 1983 et l'automne 1985. La Fondation Louis Vuitton à Paris réunit pour la première fois 80 de ces toiles à 4 mains dans une exposition XXL qui met en lumière toute la singularité de cette coopération entre deux des artistes les plus importants, les plus influents du XXe siècle. L'étincelle entre les deux artistes s'allume lors de leur rencontre provoquée par le galeriste Bruno Biscoberger. Celui-ci lance l'idée d'une collaboration entre 3 artistes de sa galerie, donc il y avait à cette époque-là Andy Warhol, alors âgé de 55 ans, qui était l'aîné. Et déjà à son sommet, il était très populaire, il a vraiment été connu durant son existence et pas post-mortem. Il y avait 2 de ses jeunes poulains, Francesco Clemente, donc 31 ans, et évidemment Jean-Michel Basquiat, qui avait à cette époque-là 23 ans, et qui commençait un peu à rassembler de la popularité malgré son très jeune âge. Les toiles tournent d'un atelier à un autre, chacun des intervenants successivement se donne des conseils à la manière d'un cadavre exquis. Et cette exposition, c'est vraiment une collision visuelle de géants. Elle envahit vraiment tous les espaces de la Fondation Louis Vuitton. L'exposition embrasse l'ensemble de cette production après d'une centaine de toiles réunies ici. Il y en a des plus grandes jusqu'aux plus petites. Je crois que la plus petite, elle fait 7 cm. Elle est comme ça. Une évolution nette se dessine des premiers tableaux donc de petit format. Et Warhol soumet un logo sérigraphié sur lequel intervient Basquiat aux gigantesques compositions de plusieurs mètres, de long, où les motifs de l'un et l'autre s'impénètrent. Et on a aussi la marque de fabrice de Basquiat, c'est donc les masques africains que Warhol va venir tout simplement améliorer, peut-être avec des touches de couleur. Et c'est vraiment une collaboration qui coupe le souffle. Donc je vous la conseille.
Est-ce que vous aviez déjà entendu parler les autres de Basquiat et Warhol? Donc là, vous avez l'affiche.
Bah, Warhol, oui, mais Basquiat, non. Enfin, pas forcément dans ce contexte-là, en tout cas. Tu regardes la fiche si tu veux.
Les autres?
T'es allé la voir ou pas?
Alors en fait, le truc qui est nul, c'est que je vais la voir vendredi. Et que du coup, j'ai dû vraiment regarder des... Franchement, je suis un peu déçue, je me suis spoil. Je voulais
spoil
pas parler...
Non, t'es ouais, informée.
Ouais, parce que je voulais pas parler d'un truc que je maîtrisais pas du tout. Et au cas où vous aviez des questions sur le visuel ou des trucs comme ça, mais c'est deux artistes que j'aime beaucoup. Et je voulais voir un peu comment elle était mise en forme, l'expo. Donc j'ai regardé un peu ce qui est bien aujourd'hui avec l'art donc, du progrès numérique et technologique, c'est que vous pouvez voir des expositions en live.
Ouais,
j'ai pas été jusqu'à acheter un ticket, mais j'ai regardé quand même quelques photos, parce que les touristes, malheureusement, ils mettent des hashtags, et du coup, avec Instagram, tu tapes hashtag Basquiat Warhol, t'as tout. Et du coup, en fait, l'expo, elle est vraiment incroyable, et j'ai hâte d'aller la voir en vrai vendredi, du coup.
Ouais, ça reste quand même très différent de voir une œuvre en vrai. Deux sur un écran de téléphone, c'est pas les mêmes couleurs, ouais, c'est pas la même taille, les effets sont pas du tout les mêmes. Moi je sais que pour avoir vu des œuvres d'art que je connaissais particulièrement bien,
là, les c'est toujours plus impressionnant.
C'est,
en
vrai, c'est vraiment très.
Moi, par exemple, pour là je compte, j'étais déçue parce que j'ai toujours surinterprété cette œuvre et quand je l'ai vue, je me suis dit bon,
c'est que ça quoi.
Voilà.
Moi, c'est le, au musée d'Orsay, c'est l'autoportrait de. Ah, j'ai un.
Edgar Degas.
Non, celui qui a le.
Van Gogh.
Ah, Van Gogh.
De Van Gogh, en fait, il y avait tout le monde qui s'abassait devant, etc. Je suis arrivée devant, j'ai dit, ok. Next. Bon, c'est pas mon genre. Je
après,
passe.
Après, donc, oui, Warhol, vous connaissiez, et donc personne ne connaissait Basquiat?
Moi, si, je voyais.
J'avais déjà entendu parler, mais.
Parce que j'ai vu, genre. Enfin, j'ai vu sur internet qu'il y avait. Qu'il y avait des personnes noires qui en fait parlaient du fait que mais quand ils enfin c'était des artistes noirs qui en fait avaient pas vraiment de référence d'artistes noirs dans quand ils étaient jeunes et qu'en fait avec avec Basquiat ils étaient plus ils avaient enfin une référence qui était pas qui était de la même
origine socioculturelle que ouais
voilà.
Et puis quelqu'un qui a été vraiment adoubé par comme tu disais, les grands... des grandes élites intellectuelles et artistiques américaines.
Et d'ailleurs, Basquiat, c'est l'auteur d'une grande œuvre qui s'appelle Jim Crow, que vous avez dû étudier peut-être avec votre programme. Les lois Jim Crow, donc c'était les lois ségrères aux États-Unis. Et Basquiat, justement, il a fait une œuvre qui est très connue et qui, justement, décrit... Il a un style vraiment très particulier, on dirait carrément que c'est des dessins d'enfants. Et il décrit, en fait, la douleur que c'était à cette époque-là d'être noir, surtout en Amérique. Et ce qui est cool, c'est que, bon, je fais un lien qui est un peu bancal, mais c'est quand même marrant de voir qu'on est toujours touché par les trucs un peu enfantins. Toi, par exemple, ce qui t'a touché dans ton film, je crois, c'est aussi l'angle de vue qu'on a à travers
ouais,
deux enfants.
À travers des enfants.
Et puis Basquiat, il parle de choses absolument horribles en justement retranscrivant ses idées et ses émotions à travers des dessins d'enfants. Et je pense que c'est pour ça que moi, c'est un de mes artistes préférés.
Ouais, ça touche beaucoup les gens quand c'est des jeunes qui en parlent. Surtout des enfants, quand ils n'ont pas la connaissance, le savoir et qu'ils en parlent. Enfin, ils se sentent concernés de quelque chose qu'ils savent peut-être pas. Et c'est quand ils apprennent la vérité.
Qui les dépasse aussi.
Ouais, qui les dépasse.
C'est une belle conclusion. Donc on va s'arrêter sur ça. Tu veux conclure, peut-être ?
Au revoir.
Merci de nous avoir écoutés. Et regardez les films, allez voir l'exposition, faites tout.
Et arrêtez lisez les livres.
Arrêtez de fumer.
Et arrêtez de fumer, mais attention, vous aurez les dents jaunes.
Allez, à la prochaine émission.
Au revoir.